Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, prendre la construction européenne au pied de la lettre. Et si les bâtiments du quartier européen de Bruxelles racontaient mieux que l'histoire politique, économique ou culturelle, les limites d'une union qui tente de se bâtir depuis 1957. C'est le pari du journaliste Ludovic Lamant, correspondant de Mediapart en Belgique de 2012 à 2017, qui nous entraîne dans une déambulation architecturale. Dans Bruxelles, chantier, une critique architecturale de l'Europe, publiée chez Lux, il sera notre invité à 12h55, après le journal de la rédaction. Mais avant cela, jusqu'à 12h30, rencontre avec la romancière Lydie Salvert, qui s'est laissée enfermer, un peu à son corps défendant, une nuit au musée, cela a donné un livre, Marché jusqu'au soir, publié chez Stock, pour une réflexion corrosive sur les musées, l'art et la distinction, mais aussi un exercice d'admiration pour le sculpteur Alberto Giacometti, et sa faculté a toujours échoué magnifiquement.
La grande table. Raphaël Bourgois.
Regarder ces œuvres m'est une corvée et je me fais violence en continuant cette expérience à la con. Les mots claquent, s'inscrivent en lettres capitales à la page 30. Il en reste 180 à Lydie Salvert pour tenter de comprendre pourquoi elle s'inflige cette nuit seule au musée. Peut-être à cause de la force de persuasion d'Alina Gurdiel, l'éditrice de chez Stock, avec qui elle partage des origines espagnoles et qui a imaginé la collection Ma nuit au musée. Son idée, répondre à une interrogation personnelle. Quelle fiction ou réflexion peut-elle surgir dans le cerveau d'un écrivain ou une écrivaine en ce moment étrange, la solitude absolue dans un endroit où d'ordinaire on ne peut ni dormir ni être seul. La réponse de la romancière, prix Goncourt en 2014 pour Pas pleurer, publié chez Seuil, gicle et éclabousse chaque page de Marché jusqu'au soir, rien. Que dalle, nada. Enfermé au musée Picasso à Paris, un petit lit de camp installé face à l'homme qui marche d'Alberto Giacometti, elle se retrouve incapable d'éprouver l'émotion artistique qu'elle espérait et qu'elle sait qu'on attend d'elle. L'exercice d'admiration se transforme alors en manifeste contre les musées, l'art, le beau en général, ou en tout cas leur manifestation contemporaine. Car de l'admiration, il y en a tout de même, à commencer par celle que vous éprouvez, Lydie Salvert, pour Alberto Giacometti, lui qui toute sa vie cultiva, comme je le disais, l'art d'échouer magnifiquement. Bonjour Lydie Salvert.
Bonjour.
Ce livre, Marché jusqu'au soir, tient autant de l'essai que du livre d'histoire de l'art, du récit témoignage, parfois de l'autobiographie partielle, on est habitué dans votre œuvre. Comment vous le définiriez, vous ?
Je suis incapable de donner une étiquette à ce travail, je ne sais pas. C'est un livre avec des pensées lièvres, j'ai trouvé ça quelque part, les pensées lièvres, c'est-à-dire des pensées qui surgissent tout d'un coup alors que vous êtes dans un lieu étrange et qui vous amène là où vous n'aviez pas l'intention d'aller. C'est ça qui s'est passé pour Marcher jusqu'au soir et durant cette nuit. C'est que je ne savais pas où j'irais, où me conduirais cette nuit. Et c'est ça que j'ai aimé, je crois, aussi.
Vous ne le saviez pas, mais vous pressentiez, en tout cas vous aviez un mauvais pressentiment, hein, vous le dites. Le livre, d'ailleurs, ce sont les premiers mots du livre. Hein. Non, je lui ai dit non merci, je n'aime pas les musées, puis vous enchaînez comme ça ce récit de cette nuit au musée. Parce que, comme je le disais, Alina Gurdiel, l'éditrice de chez Stock, hein, qui a imaginé cette collection, voilà, son idée c'est de mettre un écrivain, une écrivaine, vous, face à des œuvres, la nuit, de faire surgir quelque chose, c'est de créer un moment de création. Finalement, vous nous le dites, ça a donné quelque chose, mais bon, tout le livre, c'est justement que vous résistez à quelque chose en vous qui résiste à ce
oui,
moment.
Oui, il y a une colère que je partage avec de nombreux autres, une colère contre cette obligation que nous sommes souvent d'admirer ce qu'on nous dit d'admirer, contre ce conditionnement dans lequel nous sommes, qui nous invite à s'esbaudir devant ce que les tenants du goût nous disent d'admirer, etc. Donc derrière la colère, je pense que c'était surtout une invitation à encourager les autres à voir l'expérience de l'art, justement comme une expérience et pas comme une soumission à un conformisme ou aux idées culturelles du moment, une invitation à être libre, quitte à à dire qu'on n'aime pas je ne sais quel Rembrandt ou je ne sais quel Picasso
chef-d'œuvre qu'on nous dit d'admirer et d'aimer absolument Lydie Salvière. Mais cette colère qui vous habite, elle vous surprend quand même. Dès le début, vous êtes surprise par cette colère que vous éprouvez. C'est la violence des sentiments qui monte en vous et qui vous amène, par exemple, dans une conversation téléphonique que vous retranscrivez avec votre compagnon, être très vindicative contre les musées, l'art en général, ou en tout cas, cette, comme vous venez de le dire, cette obligation d'aimer l'art. Et finalement, quelque chose se produit qui est de l'ordre de l'introspection.
Voilà, au bout d'un moment, il me semble vain de fustiger cet art dit contemporain, puisque c'est devenu le dernier conformisme et que c'est devenu un autre lieu commun qui n'ouvre pas sur grand chose, qui se satisfait souvent de l'impossibilité de la subversion telle que l'annoncent les uns et les autres. Et donc je vais abandonner ces questions pour essayer de voir comment en moi s'est construit mon rapport à l'art en général, à la culture en général et à la littérature en particulier.
Il y a presque un dispositif, comme on dit justement dans l'art contemporain, qui se met en place, Lydie Salvière, à l'occasion de cette nuit passée au musée. Ça devient une performance. Vous créez un suspense. Il faut bien le dire, parfois, la frustration qui vous habite accompagne aussi le lecteur qui, à certains moments, se demande un petit peu pourquoi il est avec vous enfermé dans ce musée. Il s'est dit, mais pourquoi je m'inflige ça à moi aussi, prisonnier, enfermé, face à cette colère, à cette frustration, et pourtant, on ne lâche pas le livre à un seul instant.
Que dire ? J'avais le sentiment que je répétais au fond ce sentiment d'échec qui anime Giacometti lorsqu'il essaie de peindre ou de sculpter, cette impression de ne jamais atteindre ce qu'il veut atteindre, de ne pas parvenir à restituer la force du vivant, de ne pas parvenir à restituer le mystère d'un visage, sa blessure, ce qu'il y a en lui d'invisible, de courir toujours après une perfection, et dans ce chemin vers l'insaisissable, vers la perfection rêvée, mais être pris au dépourvu, se laisser détourner par tel détail, etc. C'est ce que fait Giacometti, et j'ai l'impression que c'est un peu ce que j'ai fait aussi.
Alberto Giacometti s'expliquait justement sur cette incapacité qui était la sienne finalement à rendre véritablement par la sculpture ce qu'il avait en tête. C'était en 1953, au micro de Georges Charbonnier, c'est une archivina.
Jamais, volontairement, je ne voulais faire des sculptures allongées. Ni mince. Je voulais faire toujours, je veux continuer d'ailleurs, je veux le faire au plus proche possible de ce que je vois, tel que je le vois. En les voulant faire de cette manière-là, malgré moi, tout à fait malgré moi, elle devenait allongée. Comme avant ça, elle devenait minuscule. C'est pas... Elle ne devenait vraie, jusqu'à une certaine époque, que minuscule. Elle ne devenait un peu vraie pour moi qu'allongée. Et je me suis battu contre cet allongement pendant des années.
Il y a chez Giacometti, vous l'avez dit, cet art d'échouer. En tout cas, c'est l'expression que vous utilisez dans votre livre, Lydie Salvière, Marcher jusqu'au soir, donc publié chez Stock. Et on l'entend là, Alberto Giacometti nous dire, en quelque sorte, je subis presque mon art, ma façon de travailler.
Oui. Il disait toujours, le sujet est plus fort que ma peinture. Je n'arrive jamais à lui restituer la force du vivant. Je n'arriverai jamais à dire la beauté d'un visage. Or, il aimait infiniment tous les visages. C'est une chose qui est magnifique chez lui et qui lui fait dire devant Genet, qui pose devant lui, comme vous êtes beau. Et il ajoute, comme tout le monde, n'est-ce pas ? Il avait un amour extraordinaire des visages. Oui, ce sentiment de ne pouvoir jamais rendre compte de ce qu'il perçoit, de ce vers quoi il tend, d'être sans arrêt confronté à l'insaisissable, mais comme Wolff et comme beaucoup d'autres, à la différence de Picasso, qui lui prenait, qui lui concluait, qui lui travaillait par fulguration. Il disait, je ne cherche pas, je trouve. Giacometti, il ne trouve pas, il cherche, et il aime chercher. Il aime l'appel de l'insaisissable qui l'amène à chercher, à désirer, etc. Ce sont deux figures totalement opposées.
Et qui a été réunie à l'occasion de cette exposition au Musée Picasso à Paris, où vous vous êtes retrouvée enfermée pour la nuit, Lydie Salvert. Donc, dans cet échec magnifique, il y a aussi quelque chose d'une forme de résistance à l'époque. Une époque, évidemment, la nôtre, qui est celle de la gagne, de la win, dirait un bon franglais. Oui. Et vous notez dans votre carnet, Giacometti voyait peut-être dans ses échecs une forme d'élégance aristocratique dans un monde où la gagne, la plus vulgaire, commençait déjà à prévaloir sur tout le reste.
Oui, il se moquait parfaitement, lui, de réussir, d'achever, de conclure, de vendre. Il est devenu très très riche, presque malgré lui, tout en continuant à vivre. Ça aussi, c'est une chose que j'aime tellement chez lui, à vivre comme un pauvre, dans un atelier mal chauffé, étroit, encombré, prodiguant son argent auprès de tous ceux qui le...
Au désespoir de son frère Diego, dont vous rappelez évidemment le rôle à ses côtés.
Oui, un rôle capital. Ils font couple, tous les deux. Ils sont intimement liés et on se demande si ce sacrifice de Diego, mais je dis sacrifice et je ne devrais pas, en tout cas ce sacrifice consenti et même heureux de Diego a été perçu par Alberto Giacometti ou pas? Est-ce qu'ils en étaient conscients ou pas l'un l'autre de cette alliance où l'un était au service de l'autre absolument et de façon heureuse?
Alliance qui manifestement fait aussi parfois figure d'aliénation, vous l'expliquez, Lydie Salvert, mais une aliénation, comme vous l'avez dit, heureuse et voulue, puisque Diego doit malgré tout abandonner un petit peu son art au profit de celui de son frère. Mais parlons quand même un tout petit peu de cet homme qui marche, donc une des sculptures les plus connues évidemment d'Alberto Giacometti, long, filiforme, cet homme en mouvement, très fin, marchant, que vous ne connaissiez, dites-vous, que par des reproductions, vous ne l'aviez jamais vu en vrai avant d'aller au musée Picasso, une œuvre qui vous touche, en tout cas a priori,
infiniment.
Mais face à laquelle vous vous retrouvez complètement sèche.
Dire d'abord combien je l'aime et combien cette figure me semble... en quelque sorte un résumé de notre condition humaine avec son immense fragilité, sa vulnérabilité, le poids de la mort qui semble peser sur ses épaules et en même temps le désir entêté de marcher, puisque marcher signifie vivre, ces deux choses. Et débarrasser de tous les oripeaux sociaux, aucun signe sur l'homme qui marche d'un quelconque pouvoir ou d'un quelconque statut social, il est nu. Je l'admire, je l'ai admiré infiniment. Et face à lui, et dans les conditions que vous décrivez, je n'éprouve rien qu'une vague appréhension que j'essaierai de comprendre par la suite et qui me semble liée, qui m'a semblé liée par la suite au fait que cette figure me parlait de la mort, me parlait de notre misère et de notre mort, et que je m'en défendais probablement lorsqu'elle était face à moi.
Il y a une autre hypothèse que vous développez, Lydie Salvert, pour expliquer finalement cette incapacité à éprouver l'émotion voulue face à l'homme qui marche d'Alberto Giacometti, en tout cas au moment de demander, c'est vos origines sociales. Vous avez un long développement là-dessus et un développement qui rappelle ce que Pierre Bourdieu, sociologue Pierre Bourdieu, pouvait dire évidemment de la distinction et du rôle des musées. Je vous propose de l'écouter.
Et on voit que ce sont les mêmes qui savent voir et qui vont voir. Autrement dit, pour aller voir, pour aller au musée, il faut avoir la possibilité de voir. Et les gens qui ne vont pas au musée sont des gens qui s'éliminent enfin de la fréquentation du musée, non pas parce qu'ils ne sont pas doués, non pas parce qu'ils n'ont pas cette grâce que s'attribuent ceux qui vont au musée, mais parce qu'ils n'ont pas appris à regarder les œuvres d'art. Alors là aussi, au passage, nous réglons son compte, si vous voulez, à une illusion très répandue parmi les privilégiés de la culture, l'illusion que la culture, paradoxalement, pourrait être quelque chose d'inné. Bon, en réalité, l'art de voir est quelque chose d'acquis. Je crois qu'une des fonctions des musées, une des fonctions objectives, inconscientes des musées, c'est précisément d'être quelque chose où tout le monde peut aller et où seuls quelques-uns vont. Le musée est important pour ceux qui y vont dans la mesure où il leur permet de se distinguer de ceux qui n'y vont pas.
Pierre Bourdieu, donc le philosophe, c'était en 1972, une archive qui a été qu'on peut trouver sur l'INA, Lydie Salvert, on l'entend hein, dans cette archive de Pierre Bourdieu, et c'est aussi ce que vous faites vous dans votre livre. Il y a un rapport à la culture, un rapport au musée qui ne se donne pas de façon évidente.
Oui, qui est né de l'enfance, donc une enfance, comme vous l'avez rappelé, de parents républicains espagnols, père ouvrier, et ce sentiment que j'ai que la culture, en tout cas la grande culture, est pour les autres, que je n'y ai pas accès, qu'elle m'est interdite. Si bien que je me demanderai plus tard si une des fonctions de la grande culture, c'est justement de peut-être exclure, en tout cas d'intimider et de la laisser réservée à une élite et dans le plus parfait entre soi. En tout cas, je vais produire des efforts très grands pour l'acquérir, cette culture qui m'apparaît évidemment désirable, mais comme signe de distinction. Ainsi que le dit Bourdieu, évidemment, comme illusion qu'ainsi je vais en être, je vais faire partie du club culturel que j'aurai mes papiers, mais je vais en tirer mon miel, en définitive, et c'est ça qui importe.
Qui importe et qui est ambigu, puisque vous rappelez un moment fondateur pour vous, puisque vous demandez même si c'est pas ça qui vous a poussé à écrire, c'est un dîner en ville, un dîner mondain, comme on dit, Lydie Salvert, où la maîtresse de maison, s'adressant à votre compagnon, vous l'entendez pas sur le moment, mais ça vous est rapporté, lui dit, elle a l'air bien modeste en parlant de vous. Et ce modeste, qui est évidemment peut-être un trait de caractère, mais qui est aussi, on va dire, un caractéristique sociale, vous met là encore dans une colère noire. Vous mettez souvent en colère Lydie Salvert, manifestement.
Et ceux dans qui les
vous
livres.
Ont... Dans les livres, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ceux qui vous ont lu le savent. Ça vous amène à une réflexion, justement, sur cette notion de modestie. Ça vous ramène aussi à Alberto Giacometti, vous le disiez tout à l'heure. Et donc, voilà, c'est vraiment cette... événement fondateur en quelque sorte.
Oui, ça m'est insupportable parce que j'ai l'impression que mes origines sociales sont inscrites dans mes gestes, sur mon visage, dans mon être, au point que quiconque peut les lire. C'est comme si j'étais démasquée en quelque sorte. Et je dis effectivement que c'est cette réflexion qui m'a peut-être donner envie d'écrire, mais parce que je crois qu'on écrit devant l'insupportable. J'en suis persuadée. L'insupportable d'un manque ou l'insupportable d'un malheur, d'une honte, etc. Quand il n'y a pas d'insupportable, on se tait. Et au fond, je dois rendre grâce à ce « elle a l'air bien modeste » parce que cette remarque m'a peut-être, c'est une des hypothèses que je formule et dont je ne suis pas tout à fait sûr, mais m'a conduite peut-être à écrire un jour.
Et une forme aussi de détestation, une haine de ce monde de l'art, ce monde de la culture. Vous ne parlez pas de ministre de la culture, mais c'est, j'ai perdu le ministre de l'entertainment, de la distraction. Voilà, c'est le terme que vous employez, Lydie Salvert. Des gros cons, encore plus cons que des cons. Que ces cons de kangourous, qu'est-ce qu'ils vous ont fait les kangourous, Lydie Salvert?
Mais je suis hostile évidemment à la fausse culture, celle qui est comme un habit, celle qui est un habit pour paraître et pour avoir l'air intelligent, celle qui ne produit que de la fausse parole, celle qu'on entend souvent autour de nous, de ceux qui n'aime la culture que comme moyen d'étaler ses origines et son appartenance, bien sûr, mais parce que précisément j'aime la culture. C'est ce qui me fait rager contre la fausse culture, contre la pose, contre les singeries devant l'art, évidemment.
Oh,
Ape Shit, les Carters, Beyoncé et Jay-Z, vous en parlez, Lydie Salvert, dans votre livre « Marcher jusqu'au soir ». Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est là de l'art ou pas de l'art, mais plutôt de s'interroger sur ce clip, Ape Shit, qui a été tourné au Louvre devant les œuvres, qui a beaucoup fait parler justement sur ce que ça disait d'une certaine conception de l'art, une vision un peu lisse, et aussi de l'art des dominants, puisque Jay-Z et Beyoncé ont un discours hein, qui est propre à un certain nombre d'artistes noirs américains aujourd'hui sur la domination blanche. Et là, beaucoup de gens ont dit ils ont un peu raté leur cible, parce que finalement, ils ont une façon de voir l'art, de voir cet art avec encore ce regard par en dessous, en quelque sorte, comme dominé.
Oui, absolument. Et en même temps, l'art comme un décor de luxe, comme un décor pour faire joli, et dépourvu de sens, me semble-t-il, par rapport à leurs chansons. C'est très étonnant, mais ça dit aussi le dévoiement des musées qui se prêtent aussi à ce genre de choses. Autrefois, les musées étaient complètement à l'abri de toutes les marchandisations, de toutes les spéculations, et il semblerait que petit à petit, ils se faisaient rogner par la marchandise. C'est ce que fait Beyoncé, c'est le Louvre qui va s'associer avec Airbnb, c'est Versailles laissé à Jeff Koons à prix d'or, etc. Il me semble que la belle vocation des musées, qui était justement de constituer un refuge hors tout esprit marchand, est en train de, je sais pas, d'être lentement dévoyée, peut-être.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, Lydie Salvert? C'est la question que vous pose Alina Gurdiel, votre éditrice. Si, comme vous le prétendez, le saccage est reconverti en art par cela même qui l'engendre, puis vendu pour distraire les masses.
Non, mais ça me permet de dire qu'il existe, bien évidemment, toute une création en ce moment qui est vivante, qui est inventive, qui explore et qui essaie justement de trouver des circuits, des réseaux hors ces quelques financiers richissimes qui financent une poignée d'artistes internationaux.
Mais la récupération des avant-gardes par, on va dire, le courant plus mainstream, plus commun de la culture et de la création, c'est très courant, c'est l'histoire de l'art en quelque sorte.
Bien sûr, c'est vrai.
Lydie Salvert.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais vous, les artistes que vous admirez, ce sont ceux qui sont un peu fêlés, ceux qui sont un peu obsédés par leur art. Je vais rappeler peut-être ici que vous avez été psychiatre dans une vie précédente. Vous avez suivi des études de médecine. Vous le dites, hein, c'est vraiment ceux qui ont cette obsession pour leur art qui vous intéresse.
Bien sûr.
Qui se laissent dévorer presque.
Et qui ne cèdent pas au plaisir de plaire, hein. C'est ce que Baudelaire dit de la prostitution des salons, une prostitution pour les artistes qui, eux, sont obsédés par le désir de plaire, alors qu'un artiste devrait s'imposer le plaisir aristocratique de déplaire. J'aime les artistes qui ne sont pas dans le souci de plaire, mais tous sont plus ou moins, et moi inclus évidemment, dans ce souci de plaire.
On a envie d'être lu, on a envie d'être vu, on a envie d'être admiré presque.
Mais pas forcément courbé, peut-être. Et pas forcément à genoux et soumis à la culture dominante, peut-être.
Est-ce que ça passe par une certaine forme d'écriture chez vous? Par exemple, une certaine façon, un plaisir des mots qui vous amène, vous citez Virginia Woolf d'ailleurs, à ce titre, je crois, certains mots méritent d'être féminisés, d'autres d'être sauvés, des mots que vous utilisez avec gourmandise ici, comme impéritie, ambiguement, oblation.
L'importance des mots, l'importance même de la graphie, l'importance du style que peut-être les uns et les autres sont en train d'oublier. Mon Dieu, j'ai l'impression que je suis une vieille dame quand je dis ça. Mais bien sûr, l'importance du style, bien sûr, autant que du sens. L'un et l'autre indissociables du reste.
Le style chez vous, Lydie Salvert, il passe par quoi? Il passe par cette graphie, vous en avez parlé, des retours à la ligne, en milieu de phrase, un mélange des genres, des styles?
Peut-être, mais si je devais dire une seule chose, Et justement, comme Giacometti me l'apprend, c'est restituer le vivant. Restituer le vivant. Donner à la parole écrite la force, l'impact de la parole vivante. Je n'ai que cette idée. Et j'ai sans cesse en tête cette citation de Kafka qui disait « Les livres doivent mordre, doivent donner des coups sur la tête, sinon à quoi bon ?»
Virginia Woolf disait « Les mots n'existent pas dans les dictionnaires, ils existent dans la vie. » Et chez vous, ça donne « À ce moment précis de la nuit, je n'avais plus aucun intérêt, plus aucun désir pour l'art. L'art, je m'en cognais totalement. Pire que ça, l'obligation de l'adorer me semblait haïssable. Elle me rebutait. L'art, je m'en torche le cul. » Écrivis-je sur mon ordinateur. C'est ce mélange des registres, hein, du plus soutenu au plus vulgaire, on va le dire comme ça, qu'on dirait à l'école.
De la culture populaire et de la culture savante, l'une n'excluant pas l'autre, et les deux s'embrassant très bien, comme on l'a vu souvent.
Et vous ne terminez pas toutefois, Lydie Salvert, sur une note totalement pessimiste. Hein. Il y a quand même ce que vous appelez une pensée issue. C'est quoi une pensée issue?
Lorsque le désespoir m'étreint, voir jaillir une solution, même précaire, un espoir, même précaire.
Et qu'est-ce qui a jailli à l'issue de cette nuit au musée?
L'espoir, c'est que ferions-nous, comment vivrions-nous sans l'art?
Finalement. L'art, quand même.
Finalement.
Et quand même, cette chose qu'on a en commun, Lydie Salvert, marcher jusqu'au soir, ma nuit au musée, c'est le nom de la collection chez Stock. Vous avez publié ce très beau texte. Merci d'être passé par la grande table. Merci. Je signale que vous serez le 27 mai à 19h à la Maison de la Poésie à Paris pour une rencontre animée par Sophie Joubert. Voilà pour celles et ceux qui sont à Paris. Merci Lydie Salvert.
Merci encore.